invités à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. En cette semaine du 1er mai, une géopolitique des travailleurs, de ces travailleurs que l'on importe, que l'on exporte, voire que l'on exploite. Nous parlerons demain des sous-traitants de l'intelligence artificielle à Madagascar. Mercredi, des domestiques modèles dont se vantent les Philippines. Jeudi, des commerçants chinois au Sénégal. Aujourd'hui, les travailleurs asiatiques en Hongrie, moteur de l'industrie.
On peut dire que chaque travailleur d'un pays tiers sauve 10 emplois en Hongrie. Parce que s'ils ne venaient pas, les employeurs devraient délocaliser leurs usines dans un autre pays avec une main-d'œuvre suffisamment nombreuse et qualifiée.
J'ai des avantages, comme une chambre où dormir. Ils me payent le transport. Et j'ai mon salaire qui est bien meilleur qu'en Indonésie. Je touche à peu près 700 euros. C'est deux ou trois fois plus qu'en Indonésie. Ici, je suis mieux payé.
Depuis qu'ils ont commencé la construction du nouveau site, c'est de pire en pire. Ils ont fait venir 20 ou 30 Coréens dans le quartier. C'est devenu le chaos ici. Leur culture est différente et je pense qu'ils ne peuvent pas s'adapter à la nôtre.
Une opinion chauffée à blanc par le discours des politiques au pouvoir en Hongrie qui, depuis 2015, se proclame dernier rempart européen contre l'immigration. Le gouvernement hongrois de Viktor Orban avait fait même dresser une clôture à la frontière avec la Serbie pour bien signifier aux Afghans, Pakistanais, Somaliens que leur route est un cul-de-sac. Il y a un an pourtant, Viktor Orban annonçait l'accueil dans les deux années suivantes de 500 000 travailleurs étrangers afin de pourvoir aux ambitions nouvelles de la Hongrie, devenir le plus grand constructeur européen de batteries et de véhicules électriques en Europe. Pour cela, il faut de la main-d'œuvre et le pays en manque. Alors, en périphérie des villes hongroises qui accueilleront les prochaines usines de l'allemand BMW ou du chinois BYD, se sont dressés partout des hangars et des Algeco pour loger des centaines d'ouvriers, principalement venus d'Asie, chinois, coréens, indiens, philippins ou encore indonésiens. Comment Viktor Orban a-t-il mis en place cette politique de recours massif aux travailleurs invités, comment ces derniers sont recrutés, quelles sont leurs conditions de travail et de vie, comment les opposants politiques de Viktor Orban exploitent aujourd'hui cette contradiction entre ses discours et ses actes à l'approche des élections municipales qui se tiendront au mois de juin. Nous en parlons avec nos deux invités. Bonjour Joël Le Pavou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne depuis Budapest où vous êtes journaliste indépendant. Couvrez le territoire hongrois. Nous sommes également avec Jean-Baptiste Chastan. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, correspondant régional pour Le Monde en Europe centrale. Il se trouve que vous êtes en ce moment en France et que vous êtes en duplex depuis France Bleu Drôme Ardèche à Valence. Alors vous avez tous les deux visité de nombreuses usines ou futures usines qui aujourd'hui emploient en Hongrie des travailleurs d'y inviter pour la construction de sites ou déjà pour faire tourner de prochaines usines de construction de voitures automobiles, en l'occurrence électriques. Mais d'abord, quelle est la logique qui a conduit Viktor Orban à annoncer il y a maintenant un an que la Hongrie allait accueillir 500 000 travailleurs étrangers dans les années à venir, Joël Le Pavou? Fallait-il qu'il y soit acculé? Il disait en 2016 que la Hongrie n'avait pas besoin d'un seul migrant pour son économie et là il parle de 500 000.
Oui, il part de 500 000 dans une façon assez paradoxale, puisqu'en l'occurrence, la Hongrie tutoie le plein emploi. On est à même pas 5% de chômage, mais force est de constater qu'avec l'émigration massive, voilà, année après année, depuis le retour au pouvoir de Viktor Orban en 2010, il y a aujourd'hui un manque cruel de bras que l'économie hongroise doit compenser par l'import, puisque c'est le terme que vous utilisiez tout à l'heure, de travailleurs venus d'Asie, voilà, d'Inde, d'Indonésie, et clairement, sans cette main-d'œuvre, ou sans ces 500 000, ou sans ces personnes qui viennent construire les grands chantiers chinois ou les grandes usines de BMW, l'économie hongroise ne pourrait pas relever les défis auxquels elle se prépare.
Parce qu'il manque de bras, le patronat hongrois aujourd'hui, le chômage, vous le disiez, oscille entre 3 et 4 %, parce qu'une partie de la jeunesse aussi a émigré en Europe occidentale, et puis ça ne va pas s'arranger dans les années à venir, puisque le pays est en déclin démographique malgré les politiques natalistes de fortes subventions aux familles. Donc, la Hongrie aujourd'hui, Jean-Baptiste Chastan, fait venir massivement des travailleurs de l'étranger pour devenir précurseur, c'est un autre élément de contexte, en matière de transition énergétique et d'automobile électrique. Quand est-ce qu'elle s'est lancée dans cette transition industrielle-là, Jean-Baptiste Chastan ?
On peut dater ça, je dirais, oui, c'est après le Covid qui s'est lancé dans l'idée qu'il fallait reconvertir l'industrie automobile, qui est très importante en Hongrie. C'est l'industrie la plus employeuse, enfin la plus employeuse de personnel en Hongrie. Et du coup, face à la décision de l'Union européenne, tout simplement, de passer sur la production uniquement électrique, il a décidé, il a tout fait avec l'aide de la Chine, c'est ça la spécificité de la Hongrie, pour faire basculer ses usines sur le modèle électrique. Et en construisant notamment donc à Debrecen, cette grande ville à l'est de la Hongrie, actuellement, qui sera probablement une des villes en Europe qui va devenir le premier lieu de production de véhicules électriques chinois. Et il a besoin de milliers de personnes pour faire ça, parce que ce sont des usines qui vont être considérables dans des villes où, en effet, la population active est devenue absolument, enfin, une denrée très rare, quoi.
En effet, le géant chinois des batteries CATL a investi 7 milliards d'euros dans le pays, donc l'année dernière, est en train de construire donc près de Debrecen, qui est la deuxième plus grande ville industrielle du pays, qui se trouve dans le nord-est de la Hongrie, la plus grande usine d'Europe de lithium-ion pour les batteries. Il y a aussi Samsung qui a installé une usine de voitures électriques à Gode, dans le nord, quelques années plus tôt. Si on juxtapose, Joël Le Pavou, la carte de l'industrie automobile traditionnelle en Hongrie, qui est déjà très forte depuis longtemps, l'Allemagne construit ses voitures en Hongrie pour partie. Si l'on juxtapose cette carte-là avec celle de l'industrie automobile électrique, celle que la Hongrie veut développer, est-ce que ce sont les mêmes cartes ? Autrement dit, ces travailleurs invités, est-ce qu'ils sont envoyés dans des régions qui sont déjà des régions industrielles de l'automobile ?
Alors, Debrecen n'était pas une région industrielle de l'automobile jusqu'à l'annonce de l'arrivée de BMW qui débutera complètement ses activités en 2025, soit la même année que CATL qui installe son usine à proximité de Debrecen, comme vous l'avez indiqué. Et lorsque vous évoquiez tout à l'heure BYD, c'est très important de souligner que BYD va s'installer à Szeged, qui est donc l'une des grandes villes du sud du pays, à environ une heure de route de Kecskemét, là où se situe l'usine Mercedes. Il y aura aussi des usines de batteries plus à l'ouest du territoire hongrois. Alors, par rapport à l'industrie allemande, il y a Audi qui est à Győr et qui a l'une des plus grandes usines de fabrication de voitures, non seulement de Hongrie, mais aussi de la région. Et là aussi, autour de Győr, il y a des projets d'usines qui créent des contestations locales comme à Debrecen. Et le dernier constructeur qui était déjà installé de longue date en Hongrie, c'est Opel, qui lui est à Saint-Gothard, près de la frontière autrichienne. Mais globalement, et c'est ce que Viktor Orban disait dans son discours devant la Chambre de commerce, il y a un focus sur l'est et le nord-est du territoire hongrois, puisque au-delà de Debrecen, il y aura aussi des usines à Nyíregyháza, qui est une grande ville du nord-est de la Hongrie, mais aussi près de Miskolc. Donc on voit clairement que l'objectif du gouvernement Orban, c'est d'essayer de faire un rattrapage, on va dire, dans l'est et le sud du pays, qui sont les parties moins développées par rapport à l'ouest, plus proche de la frontière autrichienne.
En tout, ce sont une trentaine d'usines de batteries électriques ou de sites qui fabriquent les composants nécessaires à la fabrication de ces batteries qui doivent sortir de terre dans les 5 ans qui viennent en Hongrie. La Hongrie qui veut profiter de cette décision prise à l'échelle de l'Union européenne d'arrêter d'ici 2035 la vente de voitures thermiques neuves, donc qui se positionne d'ores et déjà et qui, pour ce faire, fait venir massivement des travailleurs étrangers, travailleurs invités, comme dit Viktor Orban, comme d'autres disent immigration choisie. 500 000 travailleurs invités, ça représente plus de 5% de la population totale du pays. De quelle façon, Jean-Baptiste Chastan, le gouvernement hongrois a-t-il déjà encadré cet afflux à venir de travailleurs étrangers ? Quel réseau a-t-il d'ores et déjà mobilisé ?
Alors, pour être très précis, alors c'est vrai que l'annonce de l'année dernière, c'était 500 000. Les chiffres qui ont été publiés il y a deux semaines, je crois, on en est à 120 000. Hein. Donc, c'est peut-être loin que le chiffre de 500 000 ne sera jamais atteint. Parce qu'on, comme vous l'avez expliqué au début de l'émission, ça se passe dans un contexte politique très sensible sur ce sujet, etc. Et il y a des hésitations en permanence du pouvoir sur, notamment, l'aspect législatif, comment réguler cette arrivée de travail, de main-d'œuvre étrangère, etc. Et donc, du coup, on ne sait pas si cet objectif de 500 000 sera vraiment concrétisé d'ici un an, puisqu'il l'a fixé il y a un an exactement, quoi. Par ailleurs, donc sur l'aspect légal, législatif, il l'a fait de la façon dont il le fait traditionnellement l'économie hongroise, c'est-à-dire qu'il a autorisé des entreprises proches du pouvoir, donc des cabinets de recrutement proches du pouvoir, à développer cette activité, donc avec un système d'agrément étatique qui permet à des entreprises sélectionnées de pouvoir obtenir des permis de travail dans une procédure accélérée, c'est-à-dire qu'apparemment là, en quelques semaines, moi c'est ce qu'ils me disent, ils peuvent recruter en Asie et déployer les travailleurs maintenant en Hongrie avec toutes les procédures de vérification, y compris des visas. Donc c'est des visas à Schengen, hein, parce que la Hongrie fait partie de Schengen, donc avec des processus quand même normalement de vérification assez poussés. Et donc en quelques semaines, ils peuvent les faire venir en Hongrie.
Le gouvernement a tissé des partenariats avec une vingtaine d'agences de recrutement labellisées, toutes, comme vous le disiez, relativement proches du gouvernement, comme cette agence de recrutement hongroise dont le responsable explique qu'il est en train de développer une filière indienne.
Nous avons différentes entreprises, des usines hongroises. Mettons que l'une d'entre elles manque de 50 opérateurs, par exemple. Dans ce cas, nous signons un contrat avec eux, un accord de recrutement qui précise ce qu'ils veulent exactement et ce qu'ils offrent. En fonction de cela, nous traduisons cette offre, nous la donnons à nos recruteurs, par exemple en Inde, car nous recrutons principalement en Inde. Et là, ils demandent à l'agence de trouver des candidats.
Un témoignage recueilli par Public Sénat. Jean-Baptiste Chastan, dites-nous en plus sur la façon dont ces agences cherchent des profils. Est-ce qu'ils cherchent des profils précis, qualifiés pour la plupart? Et surtout, quel est leur périmètre de recherche de travailleurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une liste de pays véritablement définis par le gouvernement hongrois?
Alors, ce qui est très intéressant, oui, c'est qu'il y a ces directeurs d'agences, ils sont lancés dans un marché complètement nouveau pour eux, hein, parce que ça ne s'était jamais produit en Hongrie. Donc, on a des gens, des Hongrois, qui sont allés parcourir l'Asie pour chercher des travailleurs qui pourraient venir en Hongrie. Il faut s'imaginer la difficulté de l'affaire, c'est-à-dire que la plupart des gens en Asie savent même pas où se trouve la Hongrie. Donc, souvent, ils leur vendent l'Europe, en fait. Hein, c'est la façon dont ils convainquent ces gens de venir en Hongrie.
Il y en a un qui vous a dit qu'il connaissait la Hongrie par la Coupe du Monde de foot. C'était dans, ouais, une usine de câbles, c'était un Indonésien.
Exactement, oui. Enfin, souvent, ça se limite un peu à la Coupe du Monde du foot. Voilà, il n'y a pas beaucoup de connaissances spécifiques de la Hongrie. Et ils arrivent dans des pays où, en plus, il y a une concurrence maintenant, parce qu'il faut bien s'imaginer que ce n'est pas que la Hongrie, c'est toute l'Europe centrale qui cherche à les recruter en Asie. Donc, ils se battent avec des Polonais, des Tchèques, etc., pour essayer d'être le plus attractif pour ces travailleurs-là. Donc, souvent, ce qu'ils font, ils font des partenariats avec des agences locales qui s'occupent d'essayer de faire les recrutements, ou en tout cas la première phase du recrutement. Et après, de les convaincre de ces gens de venir en Hongrie. Et vous demandez sur une liste de pays. Alors, il y a une liste de pays qui a été faite qui permet d'avoir des permis de travail encore plus rapidement que la procédure officielle. Et donc, ces pays-là sont clairement le pays source privilégié. Mmh. Alors, il y a eu pas mal d'hésitations, mais en ce moment, la mode dans toute l'Europe centrale, je dirais, c'est les Philippins qui sont jugés une main-d'œuvre qui parle anglais, ce qui est quand même un vrai avantage, parce que la plupart des gens ne parlent pas l'hongrois, bien sûr.
Mais alors que les Hongrois ne parlent pas tous anglais, par ailleurs, dans les usines. Ces Philippins, plus, quand ils arrivent dans une usine.
C'est quand même plus facile de trouver un traducteur hongrois anglais qu'un traducteur hongrois philippin, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est une main-d'œuvre qui est privilégiée et souvent qui est jugée chrétienne. Donc, un argument qui est très récurrent dans l'argument des recruteurs, c'est que les Asiatiques sont des travailleurs qui peuvent très bien passer avec la culture hongroise, etc. Enfin, ils le disent jamais, mais c'est très clair que c'est pas dans leur tête, que c'est par opposition à d'autres pays.
Donc on parlera spécifiquement d'ailleurs des travailleurs philippins dans notre émission de mercredi, dans cette série de géopolitique des travailleurs. Joël Le Pavou, est-ce qu'il y a une liste de pays éligibles, je veux dire écrite noir sur blanc, parce qu'on parle d'une quinzaine de pays d'Asie ou d'Amérique, plus la Russie, de pays culturellement compatibles? Est-ce que c'est écrit noir sur blanc dans la loi qui est passée l'année dernière?
Alors, culturellement compatible, je ne pense pas que ce soit écrit noir sur blanc. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a une primauté accordée au pays dont il a été fait mention à l'instant, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Indonésie, même le Vietnam aussi, où il y a beaucoup de travailleurs vietnamiens en Hongrie. Il y a beaucoup de Turcs qui sont des travailleurs invités. Et d'ailleurs, le phénomène, on va dire, de travailleurs invités, ce n'est pas une nouveauté en soi en Hongrie, c'est la proportion qui est surprenante ces derniers temps, puisque par exemple à Tiszaújváros, dans le nord-est du pays, il y avait déjà des Turcs, des Indiens, des Roumains et des Ukrainiens qui travaillaient à l'extension d'un complexe pétrochimique de MOL, qui est le Total hongrois et la plus grande entreprise du pays. Il faut aussi savoir que maintenant, même sur les bords du lac Balaton, où normalement il y a pas mal d'Allemands qui, entre guillemets, fuient l'Ouest, jugés trop dangereux à leurs yeux et peut-être un petit peu trop métissés, les sociétés des environs ont besoin de bras, ont besoin de travailleurs invités. Il y a cet exemple d'une entreprise américaine spécialisée dans la sous-traitance de fabrication d'équipements électroniques, qui s'appelle Flex, et qui embauche une portion non négligeable de travailleurs invités. Et là où c'est encore plus symptomatique de la contradiction entre le discours anti-migrant du gouvernement Orban et le recours aux travailleurs invités, c'est que le principal transporteur du pays, Faber Airs, hein, des camions, voilà, ils embauchent des chauffeurs indiens de poids lourds, puisqu'il n'y a plus assez de routiers hongrois, et il y a aussi même des conducteurs kényans qui ont rejoint l'entreprise, entreprise qui appartient d'ailleurs majoritairement à Ichvan Tibor, ce qui n'est autre que le gendre de Viktor Orban. C'est dire à quel point il y a une collusion, en quelque sorte, entre les intérêts du pouvoir et le fait de faire venir des travailleurs invités. Donc ça va bien au-delà, en fait, de la nécessité économique. C'est aussi une façon d'avantager les amis et les copains.
Donc ça veut dire que l'appel ou le recours à ces travailleurs invités, Jean-Baptiste Chastan, ne se limite pas aux entreprises qui travaillent en lien avec l'industrie de l'automobile électrique. Dans un de vos articles, par exemple, vous parlez de travailleurs agricoles mongols dans les champs.
Oui, alors l'exemple qui a fait beaucoup parler en Hongrie, c'est même les chauffeurs de bus de Budapest, alors je sais plus si c'est indonésien ou philippin, peut-être que Joël s'en souvient, mais qui sont en train d'être formés ou qui vont être bientôt déployés, mais bon, il faut quand même leur apprendre quelques mots de hongrois, parce qu'un chauffeur de bus qui parle que anglais, c'est quand même un peu difficile, et donc du coup, il leur fallait quelques mois de formation, quoi. Donc ouais, et ça a été un des exemples les plus flagrants de cette tendance-là, donc en Hongrie.
Sur le recours à des travailleurs qui viennent principalement des pays asiatiques. Alors il y avait la question de la religion, bien que en Indonésie beaucoup de travailleurs sont aussi musulmans, et d'ailleurs certaines entreprises ont ouvert des salles de prière musulmanes en Hongrie pour eux spécialement. Mais pourquoi sinon, à part ça, des travailleurs asiatiques? Est-ce que c'est aussi parce que, d'une certaine façon, Jean-Baptiste Chastan, ces travailleurs sont plus familiers aux Hongrois, puisque pendant la période soviétique, la Hongrie avait accueilli déjà des travailleurs chinois, vietnamiens? Est-ce qu'ils sont restés en Hongrie? Est-ce que leur descendance est toujours là?
Il y a toujours une présence ancienne, en effet, de cette époque-là, etc. Mais c'est, comme vous l'avez dit, c'était surtout des Vietnamiens et des Chinois, alors qu'il n'y avait pas d'Indiens, il n'y avait pas d'Indonésiens, il n'y avait pas de Philippins. Donc c'est quand même pas la même culture, d'une certaine façon. Donc du coup, je pense pas que cette partie-là s'explique uniquement comme ça. C'est en effet, il y a eu une forme de mode ces dernières années dans toute l'Europe centrale, encore une fois, c'est pas propre à la Hongrie, de se dire les travailleurs asiatiques, c'est ceux qui sont le plus flexibles, voilà, et qui sont aussi le plus, enfin, il y a aussi moins de besoins de formation, je pense, aussi, ils sont tout de suite prêts à travailler par rapport à d'autres pays sources, je pense.
Tout de suite, ils sont prêts à travailler. Comment la loi, cette fois-ci, encadre cette immigration? Dans les droits, par exemple, octroyés à ces nouveaux venus, leur durée autorisée de séjour sur place, la possibilité ou non de faire venir leur famille, Joël Lepavou, jusqu'où aujourd'hui la Hongrie leur a-t-elle ouvert les portes? Combien de temps? Comment tout ça est très strictement cadré?
Oui, c'est très strictement encadré, et c'est ce que dit et répète le gouvernement lorsqu'on expose le hiatus entre la rhétorique anti-immigration et le recours aux travailleurs invités. Alors aujourd'hui, selon la dernière version de la loi, et Jean-Baptiste me corrigera si je me trompe, mais normalement ils sont autorisés à rester 2 ans, plus une année renouvelable, sans possibilité de regroupement familial, encore que, et c'est ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, pour les cadres ou des personnes mieux, enfin, disons, des personnes plus qualifiées, ils ont en revanche, eux, la possibilité de venir avec leur famille puisque leurs séjours sont censés être plus prolongés.
La société de poids lourds aussi, dont vous parliez tout à l'heure, du gendre de Viktor Orban, qui emploie beaucoup de chauffeurs indiens, apparemment, elle a autorisé récemment les familles de certains d'entre eux à s'installer en Hongrie.
Voilà. C'est exactement dans cette veine-là, mais je voulais revenir un petit peu sur les Asiatiques dont Jean-Baptiste parlait tout à l'heure. Il faut savoir quand même qu'en 2018, donc ça date de bien avant cet appel d'air, on va dire, aux travailleurs invités, il y avait déjà un média hongrois qui parlait de l'intégration de Mongols à Mor, donc qui est une petite commune du nord-ouest de la Hongrie, à côté de Székesfehérvár. Székesfehérvár qui est d'ailleurs la ville de naissance de Viktor Orban, et à Székesfehérvár, donc les trois principales entreprises de la ville, que sont Videoton, Denso et Arman, ont un effectif assez significatif de travailleurs invités. Et moi, je me souviens, j'étais allé, c'était avant les élections européennes de 2019, donc ça remonte déjà un petit peu au sein de Videoton, et le patron de Videoton qui nous avait reçus à l'époque dans le cadre d'un documentaire pour la télévision publique française nous avait dit clairement que voilà, un petit peu honteusement, mais clairement que moi j'ai besoin, et à l'époque on ne parlait que de 70 Ukrainiens, mais ce n'était pas quelque chose qui était claironné sur tous les toits, contrairement à aujourd'hui où l'on voit que voilà, le recours aux travailleurs invités est ouvertement assumé par le gouvernement qui se défend de la contradiction avec le discours anti-migrant, puisque là on parle d'une immigration encadrée et qui plus est la façon dont sont installés ou hébergés ces travailleurs invités, ces Gastarbeiter, comme le disait le terme allemand dans les années 60, lorsque l'économie allemande avait elle-même besoin de bras, on voit qu'ils sont quand même tenus à l'écart des villes. Ils sont tenus à l'écart des Hongrois avec lesquels ils se mélangent très peu, sauf dans certains exemples réussis et l'exemple de Prismian à Kistelek, par exemple, là où s'est rendu Jean-Baptiste, montre qu'il peut y avoir une intégration plutôt réussie. Mais vous parliez de Samsung tout à l'heure, les Coréens qui travaillent chez Samsung sont pour la plupart dans une espèce de, alors on va pas appeler ça un petit ghetto, mais quelque chose qui est à part dans la ville, un petit peu à l'abri des regards. Et voilà, ou à Ivancha, par exemple, c'est un peu pareil, là où il y a une entreprise de SK Innovation, donc Software Innovation, qui là aussi fabrique des batteries électriques. Alors là, le symbole de la présence coréenne, c'est l'arrivée de 3 ou 4 restaurants coréens. Ça, c'est pour le côté visible, mais pour le côté moins visible, ce sont ces travailleurs qui sont tenus à l'écart ou qui sont installés dans des maisons à l'abri des regards. Je pense à Nikkei Perch aussi, donc à côté de Debrecen, CATL s'est installé pendant plusieurs mois, il y a eu pratiquement 50 à 60 travailleurs chinois qui étaient installés dans une maison, plutôt parqués dans une grande maison, et de là-bas ils étaient transportés sur les chantiers. La mairie a vigoureusement protesté contre cette installation illégale. Et aujourd'hui, normalement, ces travailleurs sont censés être partis et ont été envoyés ailleurs. Mais cela montre à quel point cette situation peut créer des frustrations au niveau local.
On va faire réagir Jean-Baptiste Chastan. Il se trouve que vous avez visité certains de ces villages containers, comme on dit aujourd'hui, près des chantiers de futures usines. C'est la loi qui a permis la construction de ces villages containers. Il me semble que c'est le village BMW. C'est ça que vous avez visité dans la banlieue de Debrecen?
Oui, voilà, c'est l'exemple que citait Joël. C'est comme BMW et ATL font venir beaucoup de travailleurs invités dans une zone géographique limitée. Ils ont besoin de lits, concrètement, partout dans la région. Et au départ, ils l'ont fait un peu sauvagement dans des villas, dans des centres désaffectés. Moi, j'ai visité un foyer de travailleurs. C'était un ancien foyer de travailleurs qui avait été vide depuis 20 ans, sans chauffage. Enfin, voilà, des Indiens qui arrivaient s'entassaient dans un truc qui était à la limite du décent. Du coup, pour qu'ils soient encore moins visibles, ils ont parlé maintenant d'ouvrir des villages containers dans les zones industrielles, donc encore plus pratique pour les employeurs d'une certaine façon, qu'ils habitent en face du chantier et qu'ils aient tout sur place et que surtout on les voit pas en ville, quoi. C'est un peu la logique qui est actuellement en cours en Hongrie. Et pour revenir, c'est lié au modèle législatif que vous évoquez, c'est-à-dire que Viktor Orban a dit clairement il y a 10 jours, le modèle pour la Hongrie, c'est le Qatar. C'est-à-dire qu'ils veulent faire venir des travailleurs exploitables à merci et qu'on puisse renvoyer chez eux dès qu'on n'a plus besoin d'eux. C'est vraiment le modèle officiel de la Hongrie actuellement. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent y arriver à faire ça sur le long terme avec le problème à la fois économiquement, les DRH, moi que je connais, qui font venir les travailleurs et inviter, ils disent au bout de 2 ans, bah ils sont bien formés, pourquoi on les renvoie là chez eux alors qu'ils sont là, qu'ils travaillent bien et qu'ils ont envie de rester ici. Donc ça, je sais pas à quel point il va résister à cette pression économique. Et l'autre point, c'est la pression juridique, c'est-à-dire qu'il y a quand même, la Hongrie fait toujours partie de l'Union européenne et est censée de respecter des droits fondamentaux, et le droit au regroupement familial, par exemple, est un droit fondamental reconnu au niveau européen. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit dans l'Union européenne d'interdire à des travailleurs invités de faire venir leur famille s'ils restent très longtemps sur place. C'est tout simplement un droit fondamental. Donc il n'est pas à l'abri après de contentieux juridiques qui iront peut-être encore une fois jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme ou à Luxembourg, et il devra probablement se plier, enfin de mauvaise volonté comme il le fait à chaque fois, mais c'est quand même quelque chose qui normalement il est censé respecter.
En tout cas, ces travailleurs invités, ceux que vous avez rencontrés très souvent, considèrent qu'ils ont de la chance de pouvoir travailler aujourd'hui en Hongrie, qu'ils ont pour certains triplé leur salaire. Alors on lit un peu tout, je lis des salaires de 600 à 950 euros selon les entreprises. J'ai aussi lu que le salaire minimum en Hongrie était fixé à 487 euros par mois ou 624 selon les publications, mais qu'en tout cas ces travailleurs invités sont beaucoup plus mieux rémunérés en Hongrie qu'ils ne le seraient chez eux. En revanche, ils seraient en train de contribuer à faire baisser le niveau général des salaires en Hongrie. C'est ce que dénoncent plusieurs syndicats, notamment le président de la Fédération des travailleurs de l'industrie chimique hongroise.
Les travailleurs invités reçoivent le même salaire que les travailleurs hongrois. Le problème est que dans certains cas, l'employeur doit fournir la nourriture et le logement aux travailleurs invités, ce qui n'est pas le cas pour les travailleurs hongrois. Et pour eux, c'est un manque à gagner. Si ce surplus leur était versé en salaire, peut-être que plus de Hongrois seraient prêts à travailler pour ces entreprises. C'est un gros sujet de conflit dans les négociations salariales aujourd'hui.
Alors comment les syndicats hongrois réagissent-ils à cette arrivée de travailleurs étrangers, Jean-Baptiste Chastan ?
Les syndicats, comme la gauche hongroise en général, est assez partagée, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois une fibre sociale et qui leur empêche de s'en prendre à des immigrés. En même temps, le sujet du dumping social, ça les préoccupe aussi. Ils voient bien que c'est fait de façon pour favoriser encore les copains de Viktor Orban. Donc du coup, ils ont quand même tendance à vouloir utiliser ce sujet, mais ils marchent sur des œufs. Donc ça dépend un peu des interlocuteurs, quoi. Donc il y a des syndicalistes, là je ne connaissais pas celui que vous avez passé, mais moi j'en ai vu d'autres, qui sont beaucoup plus prudents, qui essayent de justement d'intervenir quand il y a des conflits dans les usines pour que ça se passe bien, et qui disent eux-mêmes, bah, pour sauver des emplois des Hongrois, on a besoin de l'immigration. Ils le disent comme ça, et donc ils le reconnaissent. Et par ailleurs, il y a des responsables politiques de la gauche hongroise qui, par contre, eux, sont beaucoup plus agressifs en disant c'est de l'esclavagisme moderne, c'est du dumping social, pourquoi vous faites pas revenir les travailleurs hongrois, voilà. Et ça, c'est le même discours que ce qu'on peut entendre au parti d'inspiration néo-nazie qui s'appelle Ma Patrie, qui est encore plus radical que le Fidesz, qui lui aussi s'attaque aux immigrés, aux travailleurs invités, en disant c'est en gros du grand remplacement, quoi. Donc sur le même modèle de ce qu'on peut avoir en France.
Donc la question s'est invitée dans la campagne pour les prochaines élections municipales qui auront lieu au mois de mai ou de juin, je ne sais plus, mais en tout cas au printemps. Les maires de ces communes qui accueillent aujourd'hui des travailleurs invités, Joël Lepavoux, eux, comment réagissent-ils, surtout quand ils sont du même parti que Viktor Orban, le parti conservateur Fidesz? Est-ce qu'ils sont prêts à accueillir ces nouveaux venus, et dans quelles conditions?
Alors, puisque vous faisiez allusion à des maires ou des élus qui appartiennent au parti de Viktor Orban, je vais vous citer l'exemple que Jean-Baptiste connaît très bien aussi, de Zoltán Timár, qui est le maire de Mikepercs, qui est la commune voisine de Debrecen, à même pas 2 kilomètres à vol d'oiseau de la future usine CATL. Mais d'ailleurs, il n'y aura pas que CATL, il y aura aussi EcoPro BM, il y aura aussi une usine Semcorp de séparateurs, en plus de l'usine BMW. Bref, Debrecen va devenir un véritable hub de la batterie électrique. Et donc, Zoltán Timár, qui depuis l'automne 2022 est entré en quelque sorte en rébellion contre ce projet voilà, non seulement de CATL, mais aussi de zones industrielles et d'un port massif de travailleurs invités. C'est lui qui a mis les bouchées doubles pour essayer de faire expulser les travailleurs chinois qui avaient été installés illégalement dans une maison à un peu en retrait du village. Et en fait, ce que Zoltan Kemal, qui quand même a dans son bureau une lettre d'anniversaire signée de la main de Viktor Orban, me disait à plusieurs reprises, c'est que en soi, le fait qu'il y ait une industrie, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'industrie des batteries électriques peut être non seulement très dangereuse pour l'environnement, en tout cas c'est lui qui le disait, d'une part, ce sont des craintes qui sont partagées par sa population qui était venue s'installer ou qui avait quitté Debrecen dans l'espoir d'avoir une vie un petit peu plus tranquille et provinciale, et aujourd'hui se retrouve avec plusieurs usines à proximité directe et aussi un nombre de travailleurs invités qui ne cessent de grandir et de s'installer à proximité. Et voilà, le problème aussi, c'est il y a des craintes en quelque sorte pour la sécurité des habitants, et la Hongrie n'a jamais vraiment été un pays d'immigration, mais plutôt d'émigration, et il y a des craintes sincères de la population, comme quoi voilà, des populations qui arriveraient de l'étranger et notamment d'Asie pourraient poser des problèmes ou en tout cas occasionner des troubles auxquels la population qui s'est installée à Mikaperche ne s'était absolument pas préparée. Donc c'est... aujourd'hui, il y a...
Oui, pardon, c'est ce que dit par exemple cette habitante de la ville de Göd, dans le nord de la Hongrie, elle s'appelle Maria, et elle se plaint, elle, de l'arrivée de travailleurs coréens dans son village.
Ces amendes contre l'usine qui pollue ne servent à rien. Elles n'ont aucun impact sur le fonctionnement de l'usine. Elles continuent à nous poser les mêmes problèmes, le bruit, la pollution environnementale et problèmes supplémentaires, l'installation d'un foyer de travailleurs dans une maison récemment vendue dans le quartier. Ils crient le jour, la nuit, comme bon leur semble. C'est peut-être leur culture, mais ça dérange les habitants. Ils crachent dans la rue, ce n'est pas dans nos mœurs. On n'a vu aucun impact positif de l'installation de l'usine ici.
L'usine a touché une subvention au titre de la sauvegarde de l'emploi local. Or, il n'y a que 100 habitants de la ville qui travaillent dans l'usine. 100. 100 sur 6000.
Alors, Maria n'est pas la seule habitante de Göd à être interrogée par Euronews, en l'occurrence dans ce reportage, ce documentaire « Immigration en Hongrie, travailleurs invités contre migrants indésirables » qui avait été diffusé donc sur Euronews en septembre dernier. Ces habitants, on entend bien que pour eux, c'est la double peine, en quelque sorte, à la fois des industries polluantes qui arrivent chez eux, usines donc de batteries électriques ou d'automobiles électriques, mais aussi des étrangers dont ils ne comprennent pas la langue, dont ils ne comprennent pas les codes, avec qui ils ont l'impression que communiquer est impossible. Jusqu'où est-ce qu'on peut dire que les discours anti-immigration portés jusque-là et encore aujourd'hui malgré tout par le Fidesz ont infusé dans la société, par exemple dans ces villes et ces villages voisins de Debrecen qui ont vu affluer ces nouveaux venus, Jean-Baptiste Chastan?
Il faut bien s'imaginer que le Hongrois moyen de cette région-là, on lui dit matin, midi et soir à la télé, à la radio, contrôlée par la propagande, que l'Europe occidentale est devenue un cauchemar parce qu'il y a trop d'immigrés, en gros. C'est le message principal.
Qu'est-ce que vous appelez le Hongrois moyen, pardon?
C'est-à-dire le Hongrois qui n'a pas accès à la presse, aux médias indépendants, parce qu'on est quand même dans un pays où il n'y a plus qu'une chaîne de télévision qui est indépendante, voilà, il n'y a quasiment plus aucune radio. Donc c'est-à-dire qu'il n'a accès que au message de propagande du pouvoir et qui joue cette peur, enfin qui, ça fait des années, qui joue sur la peur de l'immigration pour souder autour de Viktor Orban en disant Viktor Orban vous protège contre les immigrés, grâce à Viktor Orban il n'y a pas d'immigrés en Hongrie, enfin c'est le message qu'ils entendent matin, midi et soir. Et tout d'un coup ils voient arriver dans leur village, comme Joël l'expliquait, un centre de réfugiés, enfin pas de réfugiés, un centre de travailleurs et invités avec des gens qui viennent, qui ont une couleur de peau différente, qui parlent pas la langue et qui viennent travailler dans l'usine à côté. Donc du coup, forcément, ce hiatus devient un peu... ça se traduit par du rejet, par une partie de ces habitants-là. Moi, finalement, après avoir su comment les Hongrois moyens peuvent être chauffés à blanc contre l'immigration, je trouve que la réaction des Hongrois est finalement assez pacifique. Je m'étais attendu, quand la tendance a vraiment explosé les deux dernières années, à des événements beaucoup plus agressifs, beaucoup plus d'agressivité sur le terrain. Et finalement, bon, il y a en effet des expériences séance de rejet. On a les propos que vous entendez, qu'on a entendus à l'instant. Il y a des gens qui vont appeler la police parce qu'ils trouvent qu'il y a quelqu'un qui est trop sombre dans la rue, etc. Mais on n'a pas eu de manifestation de violente ou qu'on n'a pas eu de rejet.
D'agression marquante.
Voilà, d'agression marquante comme ce qu'on aurait pu le craindre, hein, honnêtement.
Parce que le problème est aussi celui des conditions, la pollution que génèrent ces entreprises-là. On l'entendait dans la bouche de ces habitants qui sont, au contraire, me semble-t-il, très attentifs à ce qui est en train de se passer chez eux, qui n'ont pas été consultés, en l'occurrence, alors qu'ils vivent sur place et que des usines très polluantes débarquent. Est-ce que les syndicats sont attentifs, Joël Le Pavou, aux conditions de travail, cette fois, de ces employés étrangers ?
Alors, les syndicats, en tout cas le syndicaliste que nous entendions tout à l'heure, me disait que, justement, lui, il œuvre à ce qu'une représentation spécifique existe pour les travailleurs invités au sein des entreprises afin de faire valoir leurs intérêts. Et comme l'expliquait le syndicaliste tout à l'heure, certes, ils touchent le même salaire que les Hongrois, mais le fait de les loger, le fait de les héberger, même dans des conditions spartiates, revient plus cher que d'embaucher des travailleurs hongrois.
Sur les conditions de travail, ces entreprises qui sont malgré tout très polluantes, les batteries, c'est un secteur qui a recours à des solvants, des métaux lourds, les besoins en eau sont colossaux. Comment sont surveillées aussi les conditions de travail de ces étrangers?
Alors il y a des monitorings qui sont effectués. Alors...
Ah, on vous a perdu Joël Le Pavous, mais Jean-Baptiste Chastan, il me semble que vous connaissez bien aussi cette question-là. Comment les syndicats aujourd'hui, est-ce qu'ils contrôlent ces usines, que ce soit Samsung à Gueudes où travaillent beaucoup d'ouvriers coréens, c'est des sites qui émettent beaucoup de vapeur. Comment aujourd'hui se positionnent-ils sur la façon dont ces travailleurs étrangers, comme les travailleurs hongrois d'ailleurs qui travaillent aussi pour certains dans ces usines, doivent être protégés?
Alors sur l'aspect protection environnementale, les syndicats, notamment dans l'industrie, sont toujours un peu ambigus. Hein. C'est pas propre à la Hongrie, c'est-à-dire que c'est certes de la pollution, mais c'est aussi des jobs. Donc c'est pas forcément leur thème de prédilection, de combat quotidien, de lutter contre la pollution, quoi. Donc, voilà.
D'autant qu'il paraîtrait que les entreprises en Hongrie sont très peu sanctionnées quand elles polluent. C'est d'ailleurs ce qu'apprécieraient les sociétés qui investissent en Hongrie et qui font venir de l'étranger ces travailleurs. Comment ça se fait? Puisque les réglementations sont censées être les mêmes dans toute l'Europe.
Oui, alors la réglementation est la même, mais c'est sûr que les organismes de contrôle sont dépendants du gouvernement. Hein. C'est pas, il y a pas les fonctionnaires de la Commission européenne, c'est pas eux qui font les contrôles environnementaux des usines. Donc c'est des fonctionnaires hongrois. Et forcément, même s'ils sont censés appliquer la même leur réglementation, il peut y avoir des consignes administratives qui varient d'un pays à l'autre. Et ça, c'est sûr que pour les entreprises chinoises, c'est ça qu'elles apprécient aussi en Hongrie. Enfin, c'est un des éléments qu'elles apprécient en Hongrie, c'est de dire qu'elles puissent être active plus facilement et qu'elle craigne moins des sanctions environnementales, ça c'est évident.
Peut-être encore un mot avant de conclure cette première partie, on n'a pas retrouvé Joël Le Pavou qui est à Budapest. Ah si, vous êtes avec nous, alors peut-être que c'est à vous Joël Le Pavou que je vais diriger cette dernière question. Comment les entreprises qui disent quand même tout faire pour que tout se passe bien entre ces travailleurs étrangers et leurs travailleurs hongrois, comment font-elles? Quel genre de brochures distribuent-elles sur les différences culturelles, puisque manifestement c'est une des mesures prises, des cours aussi de Hongrois qui sont financés pour ces travailleurs?
Oui, alors dans le cas de CATL, donc la grande entreprise chinoise qui s'installe à Debrecen, il y a des rencontres qui sont organisées, des brochures qui sont distribuées en collaboration avec la municipalité de Debrecen, qui, soit dit en passant, n'est pas forcément très ouverte à communiquer là-dessus, qui choisit quelques médias de ci, de là, mais qui n'est pas forcément très avenante lorsqu'on veut sincèrement lui poser la question de quel est l'intérêt de recourir aux travailleurs invités, et y compris en termes de stratégie industrielle, ils ne sont pas très communicants là-dessus. Mais CATL a aussi organisé des campagnes de publicité qui vont jusque sur les tramways de Debrecen. Lorsque j'étais la dernière fois là-bas, on voyait des grandes affiches de CATL sur le tramway, mais aussi à la gare de Debrecen, pour promouvoir alors la possibilité de travailler pour l'une des plus grandes entreprises du monde, mais aussi le leader ou l'un des leaders des usines de batteries électriques. Alors il n'y a pas de mise en avant, on va dire, du fait que voilà, on peut collaborer dans un environnement international, ou en tout cas pour une entreprise chinoise, mais le fait est que il y a une approche clairement économique et industriel pour dire à quel point ce genre d'investissement, ainsi est-il et au-delà, peuvent être bénéfiques pour la ville et pour la région qui n'était pas un pôle industriel jusqu'à présent.
Exactement comme en Pologne, le même discours qu'en Pologne, même si la majorité a changé depuis. On part en Pologne juste après ce groupe polonais justement. Niewy Lewie, c'est l'un des derniers morceaux du groupe polonais Knedlowy, voilà, originaire de Cracovie, car nous marquons une étape en Pologne dans ce premier épisode de notre géopolitique des travailleurs. Aujourd'hui, les travailleurs asiatiques en Hongrie, moteurs de l'industrie, nos invités Joël Lepavou et Jean-Baptiste Chastan rappelaient le paradoxe entre cet appel d'air créé par le gouvernement hongrois pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère tout en tenant des discours très anti-immigration. Paradoxe que l'on retrouve en Pologne, véritable plateforme de l'immigration de travail.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Car comme la Hongrie, la Pologne connaît un taux de natalité faible, un chômage résiduel et un besoin de main-d'œuvre récurrent. Comme la Hongrie, la Pologne a tenu pendant longtemps un discours anti-immigration tout en accordant plusieurs centaines de milliers de permis de travail chaque année, un système dont les dérives sont ressorties au grand jour lors des élections d'octobre dernier et dont l'ancien Premier ministre du PiS, Mateusz Morawiecki, a dû s'expliquer.
Nous n'avons jamais donné de visa à la légère. Notre politique de délivrance de permis de travail est très encadrée et régulée. Les travailleurs immigrés sont acceptés pour 3 mois, 6 mois ou 1 an maximum. Toute l'affaire de ce trafic de visa est sortie à des fins politiques dans la dernière ligne droite des élections.
Nous sommes en ligne depuis Varsovie avec Dominika Pszczolkowska. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, en espérant que la ligne sera bonne, parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis aujourd'hui sur les différentes lignes entre Radio France et l'Europe de l'Est. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse en sciences politiques, spécialiste des migrations à l'Université de Varsovie. Alors maintenant que les élections sont passées et que le PiS n'est plus au pouvoir et que l'enjeu de cette affaire n'est plus électoraliste, qu'est-ce qu'on sait d'abord de cette affaire de trafic de visa sur laquelle enquête aujourd'hui le Parlement polonais ?
Exactement, une enquête est en cours et on sait qu'il y a eu des intermédiaires qui étaient utilisés pour aider certaines personnes à obtenir rapidement un visa, tandis que d'autres devaient faire une quête très longue. Et on sait que certains responsables du gouvernement précédent étaient directement impliqués dans cette affaire. Mais on ne sait toujours pas quelle était l'échelle, combien de personnes qui exactement, etc. Donc, on est en train d'établir ça.
Donc, d'anciens cadres du PIS, notamment l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui ont fait pression sur les consulats pour qu'ils délivrent des visas à certaines agences au détriment d'autres, c'est ça? Ou c'est pour accélérer les procédures de certains étrangers en fonction de leur nationalité? C'est-à-dire, quel intérêt avait le PIS à ce moment-là à monter ce... ou en tout cas, certaines personnalités du PIS à user de la corruption pour accélérer certaines procédures?
Enfin, pour ces personnes, il me semble que l'intérêt était financier. Il y avait de l'argent qui passait des mains et on essaie maintenant de savoir à qui exactement et quelles sommes. Mais plus généralement, les gouvernements précédents, comme en Hongrie, avaient une rhétorique très anti-immigrants. Mais en même temps, la Pologne a vraiment besoin de travailleurs. Donc, ils émettaient des centaines de milliers de permis de travail par an pour les étrangers, pas d'Ukraine, Biélorussie, mais d'autres nationalités, surtout d'Asie, parce qu'ils étaient sous pression des employeurs qui avaient besoin de main-d'œuvre.
Le Népal est aujourd'hui le deuxième pays en termes de nombre de permis de travail délivrés. Pourquoi la Pologne cible aujourd'hui cette main-d'œuvre asiatique comme le fait la Hongrie?
Il n'y a pas de politique d'immigration écrite, donc ce n'est pas dit d'une manière officielle, mais on a besoin de travailleurs, même ceux d'Ukraine, de Biélorussie ne suffisent pas. Et on essaye d'avoir des gens qui sont non musulmans et avec qui on peut se communiquer. Donc, les pays comme le Népal ou l'Inde, au moins, ils parlent anglais.
Quelques permis de travail ont été délivrés aussi à des demandeurs africains ou du Moyen-Orient. Alors, ce sont les chiffres officiels du gouvernement polonais qui datent de 2021, qui parlent de 375 Éthiopiens, c'est très précis, 123 Ghanéens, 46 Jordaniens. Pourquoi est-ce que la main-d'œuvre ukrainienne et les ressortissants des anciens pays du bloc soviétique, en particulier biélorusses, moldaves, géorgiens, qui jusque-là étaient d'ailleurs autorisés à travailler 6 mois par an sans permis en Pologne, pourquoi est-ce qu'ils ne suffisent plus?
Premièrement, la situation démographique de Pologne est très dure. Pour vous illustrer un peu, dans les années 80, il y avait 700 000 enfants qui naissaient chaque année. En 2000, quand naissaient les jeunes travailleurs d'aujourd'hui, c'était déjà moins de 400 000. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe, c'est moins de 300 000, donc un taux de natalité 1,2. Par femme. Donc, on a besoin de travailleurs. L'économie développe rapidement. Il n'y a pas de gens pour travailler. Donc, on avait déjà, avant l'agression russe de 22 000 de travailleurs d'Ukraine. Mm-hmm. Mais en ce moment de la guerre, paradoxalement, ça a conduit à une pénurie encore plus grande de main-d'œuvre, parce que surtout dans certains secteurs en Pologne, les usines, la construction, l'agriculture, parce que les hommes qui étaient souvent ukrainiens, qui étaient souvent des travailleurs temporaires qui circulaient entre les deux pays, ne peuvent plus quitter librement l'Ukraine. Et les réfugiés de guerre, c'est-à-dire les femmes et les enfants, ne les ont pas remplacés sur les chantiers ou dans les fermes. Donc, c'est pour ça que surtout ce secteur demande et cherche des travailleurs ailleurs.
Et comment sont-ils accueillis, logés, ces travailleurs étrangers? Est-ce qu'on voit en Pologne, comme en Hongrie, se construire des villages temporaires, comme nous racontaient nos invités pour la Hongrie, en Algeco, pour ces ouvriers censés rester là 2 ans?
Oui, il y a des villages temporaires. S'ils travaillent dans l'agriculture, c'est l'agriculteur qui donne du logement sur place. Mais aussi, on voit beaucoup de travailleurs à Varsovie, par exemple, je sais pas, dans le transport, Bolt, Uber, etc. C'est difficile de trouver un Polonais. Donc, certains gens s'organisent plus spontanément et vivent parmi les Polonais et d'autres non.
pour conclure, Dominika Pszczolkowska, sous le PiS, qui tenait pourtant officiellement un discours anti-immigration, Jarosław Kaczyński avait refusé d'accueillir des réfugiés en 2015. La Pologne était l'un des pays où il était le plus facile, néanmoins, d'obtenir un permis de travail. 967 000 permis délivrés en 2021, c'est près de trois fois plus que l'Espagne, qui arrive juste derrière, en deuxième position. Est-ce que c'est toujours le cas sous Donald Tusk et la nouvelle coalition qui dirige le pays depuis l'automne dernier, c'est-à-dire sous couvert d'être plus libérale, cette coalition, est-ce qu'elle continue à permettre l'immigration de travail, à accueillir les immigrés étrangers, ou est-ce que justement elle joue du paradoxe de la rhétorique de ses prédécesseurs du PiS en disant regardez, il ne faisait pas du tout ce qu'il disait ou vice versa, et donc à resserrer les vis.
Le gouvernement actuel tente premièrement de reconstruire le système des visas pour le rendre plus juste, plus sûr. Et il est également prévu de créer une politique migratoire, parce qu'on n'avait pas. Donc pour se répondre vraiment combien de personnes nous avons besoin et combien nous sommes capables d'intégrer. Donc ils veulent vraiment avoir une politique, mais il est évident que l'économie polonaise dépend très fortement des travailleurs immigrés, donc l'immigration va continuer, l'immigration non-européen aussi, mais espérons d'une manière un peu mieux organisée.
Mieux organisé. Donald Tusk le promet, dit que ce sera mieux organisé. Bon, il a par ailleurs voté contre le pacte asile et migration, alors même qu'il avait soutenu le projet quand il était président du Conseil européen. Je vous remercie beaucoup, Dominika Pszczolkowska, d'avoir été avec nous, chercheuse en sciences politiques, spécialiste des migrations à l'Université de Varsovie. Une réaction à nos deux invités qui travaillaient, vous, très particulièrement sur la Hongrie. Vous entendez des similitudes, mais aussi des différences entre les cas hongrois et polonais, Jean-Baptiste Chastan?
Ah bah la situation de la Hongrie et de la Pologne est très proche et en fait elle se retrouve dans quasiment tous les pays d'Europe centrale et orientale membres de l'Union européenne actuellement. J'étais en Roumanie récemment, c'était exactement la même situation. Et ce que vous disiez sur Donald Tusk qui n'a pas approuvé le pacte des immigrations, c'est-à-dire que ce sont des pays qui essayent de faire une dichotomie entre l'immigration d'asile qui refuse quasiment totalement, sauf quand il s'agit des Ukrainiens, et l'immigration de travail. Donc ce qu'ils disent, c'est l'immigration illégale versus légale, etc. En niant le fait que demander le droit d'asile est légal, c'est un droit fondamental. Et donc du coup, ils essayent de justifier comme ça ce que pour nous Français semble une contradiction. C'est très souvent dans les discussions, enfin les interviews que j'ai avec des responsables politiques, ils essayent de me démontrer cette dichotomie-là. Merci. Et c'est ça qui est perturbant. Ouais.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Chastan, correspondant régional pour le journal Le Monde en Europe centrale. Vous étiez exceptionnellement en France aujourd'hui, en duplex depuis France Bleu Drôme Ardèche à Valence, et je remercie Théo Mauger qui vous a accueilli dans ses studios à la technique. Merci beaucoup Joël Lepavou, journaliste indépendant en Hongrie. Vous étiez en ligne avec nous depuis Budapest. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et votre fil rouge ce matin, Catherine, ce sont les atteintes au droit à l'information, tout d'abord au Burkina Faso.
Écran noir et silence radio ce matin et pendant deux semaines pour la télévision francophone TV5 Monde, dans la foulée de la radio britannique BBC et Voice of America, la radio internationale financée par le Congrès aux États-Unis. Suspension jusqu'à nouvel ordre cette fois. Des accès au site de la radio internationale allemande Deutsche Welle, des journaux français Le Monde et Ouest France, ainsi que des sites de l'agence de presse sénégalaise APA News et de l'agence Ecofin basée au Cameroun et en Suisse, comme le précise Actu Cameroun et La Libre Belgique. Ces médias sont tous accusés par les militaires au pouvoir à Ouagadougou d'avoir relayé un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé d'avoir exécuté au moins 223 civils, dont 56 enfants, dans deux villages du nord du Burkina, Nodin et Soro. C'était le 25 février dernier. Les soldats ont fait du porte-à-porte, expulsant les habitants de leur maison, raconte la BBC. Ils ont ensuite rassemblé les villageois en groupe avant d'ouvrir le feu sur eux, les militaires ont accusé ces civils de collaborer avec des groupes armés islamistes, précise Voice of America, et il s'agit du pire massacre commis par l'armée burkinabé, selon la radio américaine. Accusation infondée, rétorque le ministre burkinabé de la communication, cité par le site d'information Wakatsera. Quant au chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, il a promis, lors d'un long entretien accordé à la radio-télévision du Burkina, d'intensifier la lutte contre les terroristes et contre tous leurs complices. Tendez l'oreille.
Il y a des villages aussi qui sont complices, mais qui commencent à comprendre un peu. Dans l'armée, il y a des complicités. Voilà, il y a des chutes d'informations, beaucoup de choses. Même dans nos villes ici, il y en a qui sont là, des terroristes, qui les enseignent. Il faut être ferme souvent. La guerre ne se fait pas dans le laxisme parce que ça se paye cash.
Les putschistes avaient promis, dès leur arrivée au pouvoir, en septembre 2022, d'en finir avec le terrorisme. Mais la violence s'est accrue, note la BBC. Plus d'un tiers du Burkina Faso est désormais contrôlé par des groupes djihadistes, ce qui pèse très lourd sur l'économie du Burkina. Alors que des dizaines de milliers de Burkinabés souffrent de la famine, rappelle la Süddeutsche Zeitung, à des niveaux comparables à la Somalie, au Soudan du Sud et à la bande de Gaza. Cette réalité ne change pas, rappelle Voice of America, malgré la censure des chaînes de télévision françaises LCI et France 24, ainsi que de Radio France Internationale et du magazine Jeune Afrique.
Autre inquiétude pour la liberté d'expression, et c'est en Géorgie, cette fois Catherine, puisque le Parlement de ce pays voisin de la Russie examine aujourd'hui un projet de loi sur l'influence étrangère.
Texte jugé liberticide par ses détracteurs. 20 000 personnes ont encore manifesté hier, place de la République, dans le centre de Tbilissi, devant le Parlement. Drapeaux européens et géorgiens, avec croix rouge sur fond blanc, autour des épaules des manifestants, comme le montre le site géorgien Interpress News. Les protestataires voient dans cette loi, examinée en deuxième lecture, des similitudes avec le texte adopté en Russie, qui a permis en quelques années de faire taire l'opposition au président Vladimir Poutine. Il a également suscité l'inquiétude de Bruxelles, qui a prévenu l'adoption de ce type de loi pourra réduire à néant les chances de la Géorgie et de ses 4 millions d'habitants d'intégrer l'Union européenne. Les manifestants, jeunes pour la plupart, comme le montre Interpress News, ont tenté d'enlever les barrières métalliques autour du Parlement géorgien. Certains ont lancé des bouteilles d'eau sur les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau, indique Resonance Daily. Le quotidien de Tbilissi spécule par ailleurs sur ce qui sera annoncé aujourd'hui par le président d'honneur du parti Rêve géorgien au pouvoir, Bidzina Ivanishvili. Va-t-il proposer un possible report de l'examen de la loi à l'automne après les élections législatives, à moins que le parti conservateur au pouvoir ne s'arc-boute sur le texte? En attendant, sur le site géorgien iPress, l'opposant Levan Kabeshvili craint des sanctions en matière de visa, voire un blocus économique de l'Occident si cette loi est adoptée. Il préfère donc dire oui à l'Europe, pas de loi russe, peut-on lire dans les colonnes d'iPress, alors que Bidzina Ivanishvili, l'homme le plus riche de Géorgie, se moque de ces éventuelles sanctions. Sa fortune a été évaluée à près de 5 milliards de dollars par le magazine américain Forbes.
Et pour finir, Catherine, une nouvelle crainte pour le droit d'asile, cette fois au Royaume-Uni. Dans la ligne droite, le sillage de l'émission de Culture Monde de vendredi avec Mélanie Chalandon, des migrants pourraient être placés en détention dès aujourd'hui.
Dans l'attente d'une expulsion vers le Rwanda, où leur demande d'asile serait examinée dès cet été, comme l'a répété hier sur Sky News le Premier ministre conservateur Rishi Sunak, eh bien les autorités britanniques prévoient dès aujourd'hui d'arrêter les réfugiés qui se présentent à des rendez-vous de routine dans les bureaux des services d'immigration, révèle le Guardian. Les exilés seront immédiatement transférés dans des centres de rétention jusqu'à leur embarquement dans des avions vers le Rwanda. Le quotidien britannique de gauche explique que cette décision coïncide avec les élections municipales qui se tiennent jeudi en Angleterre, où les conservateurs risquent de perdre jusqu'à la moitié des sièges qu'ils détiennent actuellement. Pour la députée travailliste Kim Johnson, utiliser les exilés, des personnes désespérées, à des fins politiques est amoral, risque donc de voir une levée de boucliers des avocats pro-réfugiés, de manifestations massives aussi, soulignent la BBC et le Guardian, en Écosse notamment. Pays déjà mobilisé en 2021 et 2022 sur les questions migratoires, la police est en état d'alerte.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, dans notre géopolitique des travailleurs, on parlera des sous-traitants de l'intelligence artificielle à Madagascar pour les entreprises francophones et au Kenya pour les entreprises anglophones. Dans un instant, les midis de culture.